Bonne feuille. 40 romans de la rentrée littéraire, lus par leur auteur. Aujourd'hui, au pays du petit, de Nicolas Fargue.
Je suis venu avec un exemplaire de Noces d'Albert Camus, dont voici le début. Au printemps, Tipaza est habitée par les dieux, et les dieux parlent dans le soleil et l'odeur des absinthes. La mer cuirassée d'argent, le ciel bleu et cru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière à gros bouillons dans les amas de pierre. À certaines heures, la campagne est noire de soleil. Les yeux tentent vainement de saisir autre chose que des gouttes de lumière et de couleurs qui tremblent au bord des cils. L'odeur volumineuse des plantes aromatiques racle la gorge et suffoque dans la chaleur énorme. À peine, au fond du paysage, puis-je voir la masse noire du chênois qui prend racine dans les collines autour du village et s'ébranle d'un rythme sûr et pesant pour aller s'accroupir dans la mer. Nous arrivons par le village qui s'ouvre déjà sur la baie. Nous entrons dans un monde jaune et bleu où nous accueille le soupir odorant et âcre de la terre d'été en Algérie. Partout, des bougainvillées rosas dépassent les murs des villas. Dans les jardins, des hibiscus au rouge encore pâle, une profusion de roses thé épaisses comme de la crème et de délicates bordures de longs iris bleus. Toutes les pierres sont chaudes. À l'heure où nous descendons de l'autobus couleur de boutons d'or, les bouchers dans leur voiture rouge font leur tournée matinale et les sonneries de leurs trompettes appelle les habitants. Voilà, je m'arrête ici. Ça donne une idée assez précise de ce qui suivra. Ce texte représente ce que j'adorerais faire et que je ne ferai sans doute jamais. C'est-à-dire une poésie accessible et puissante qui parle de la région dont je ne suis pas originaire mais qui est la mienne d'adoption. Je suis méditerranéen par mes origines, un petit peu pour y avoir vécu. Et je trouve qu'Albert Camus, déjà très jeune à l'époque, hein, je pense qu'il n'avait pas encore 30 ans, qu'il arrive à dégager une telle sensualité en parlant uniquement de la nature. Je trouve ça fantastique. C'est pour moi un aboutissement littéraire à part entière. C'est ce à quoi, dans l'absolu, j'aurais aimé aspirer. Voilà. Moi, pour moi, il est important de faire rire. Ça, c'est quelque chose qui, en tant que lecteur, m'importe beaucoup lorsque je lis un livre. J'aime beaucoup Julien Gracq, mais il me fait pas rire, donc au bout d'un moment, je ferme, par exemple. En revanche, j'adore Houellebecq, il est très drôle. Et un livre sans humour, pour moi, il manque une dimension très, très importante. Donc, j'essaie de rattraper le versant si sombre, finalement, de ce que j'ai à écrire par de l'humour. Il m'est venu tout à l'heure, on m'a demandé de rédiger une biographie en anglais, et je cherchais les mots, et il m'est venu ce terme, c'était pour parler de ce que j'écrivais. J'avais jamais trouvé les mots en français, il ne m'était jamais venu en anglais non plus, mais c'est en les cherchant en anglais que ça m'est venu assez clairement. Merciless sociology, c'est-à-dire vraiment une sociologie sans pitié. C'est un peu ça. Et vous savez, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que on n'écrit pas forcément ce qu'on a choisi d'écrire. On écrit ce qu'on a à écrire. Pour moi, il y a une différence entre les deux. Mais je dirais plutôt qu'il y a les livres à la première personne du singulier, les livres à la troisième. C'est comme ça pour l'instant que si je devais faire un bilan de ces 10 livres que j'ai écrits, que j'établirais des familles. Et je me sens plus à l'aise à la première personne, mais en même temps, je rêve d'écrire à la troisième. Vous voyez, on n'est jamais content.
On va vous écouter lire les premières pages de ce dernier livre, Le pays du petit.
Oui. Alors, je passe de l'iPad, où était Camus, à un vrai livre en papier, où il y a Le pays du petit. Les gens ne s'écoutent pas. C'est comme ça. C'est normal. C'est humain. Nous marchions dans Moscou avec Mondoloni. Pour alimenter la conversation, je lui faisais noter les proportions nord-américaines des avenues, le raffinement des décorations de Noël dans les vitrines, les voitures maculées jusqu'à mi-portière de gadou neigeuse, les jeans des femmes qu'elles rentraient avec discipline à l'intérieur de leurs bottes à talons aiguilles. Je tentais par toutes sortes de détails de lui communiquer l'émotion que la ville me procurait. Et Mondoloni ne répondait à ma verve que par des hochements de tête expéditifs. C'est ainsi. Mondoloni n'avait, comme tout le monde, pas de temps à perdre à chercher à comprendre ce qu'un autre que lui-même ressentait vraiment. Privé de sa cour d'admirateur, il semblait désorienté, plissant le front, se tournant sans cesse en quête d'improbables regards de piétons qu'il aurait reconnus. Rien chez lui ne pouvait rappeler cette expression de bienveillance que seules les caméras de télévision semblaient pouvoir restituer quand on lui demandait son avis sur les plateaux du 20h. Ce n'est que lorsque j'attirais son attention sur une plaque de gel, dont la forme rappelait singulièrement celle de la Corse sur le trottoir, qu'il s'anima. « Alors ça, c'est incroyable !» dit-il tout en sortant de la poche de son manteau son téléphone portable. À part la balagne qui laisse un tout petit peu à désirer, c'est exactement ça, jusqu'au décrochement de la ligne verticale de la côte est à Solenzara. Vous voyez? Je n'ai jamais vu un truc pareil. Il prit sous différents angles la plaque de gel en photo avec son appareil et conclut en riant, en référence à ses propres racines. On dirait un fait exprès. Il remit son téléphone dans sa poche et reprit aussitôt son pas de promenade. Resté en retrait, j'observais les semelles de cuir de ses chaussures à peine râpées par le seul contact des moquettes d'hôtel, des tapis de sol en caoutchouc des taxis et des grès polis des couloirs de Sciences Po. Il devait être en train de se dire que c'était cela la vraie vie. Marcher dans l'anonymat, en plein hiver, sur un boulevard moscovite, en compagnie d'un type authentiquement anonyme, moi. S'apercevant au bout de quelques mètres que je ne suivais plus, il se retourna dans ma direction et en m'adressant un regard interrogateur. Je venais juste de décider de laisser continuer sans moi jusqu'à la maison centrale des artistes. « C'est très simple, Pierre-Jean, » dis-je en tendant dans la perspective du trottoir, un bras qui ne lui laissait pas le choix. « Vous poursuivez toujours tout droit, jusqu'au bout de ce boulevard, jusqu'à la grande enseigne Canon que vous voyez tout là-bas, et puis vous tournez tout de suite à droite, sur un autre grand boulevard qui s'appelle Krimskival. Là, c'est encore tout droit, en direction du fleuve. Au pont, vous verrez la maison centrale des artistes sur votre droite. Elle est énorme, vous ne pouvez pas la louper. » J'éprouvais de la jouissance en constatant la débâcle qui s'était installée sur le visage de Mondoloni. Il avait encaissé ma dérobade sans oser protester, comme un débutant en ski auquel son moniteur aurait, sans prévenir, ordonné de s'élancer tout seul sur une piste noire. « Au pire, ajoutais-je, non sans cruauté, vous demandez « Zentralni dom Shudoshnika ». Tout le monde connaît. « Zentralni dom Shudoshnika », répétais-je, en détachant lentement les syllabes. « Vous vous en souviendrez ou vous voulez que je vous l'écrive sur un bout de papier ?» Considérant le peu de disposition de la plupart des intellectuels français pour l'apprentissage des langues étrangères, je me doutais que Mondoloni ne ferait pas exception à la règle et qu'il lui serait impossible de se remémorer ou de seulement prononcer intelligiblement ces quelques mots face au premier passant venu. Il l'avait bien cherché. Plutôt que d'emprunter avec le reste des invités la navette que les services culturels de l'ambassade mettaient à notre disposition, il avait tenu à faire avec moi le trajet à pied depuis l'hôtel jusqu'à la maison centrale des artistes. Je savais très bien que ce n'était pas tant par désir que nous fassions plus ample connaissance que par orgueil. Parce qu'il lui avait paru soudain intolérable qu'un type réputé homme de terrain comme lui laissât devant tout le monde une figure de second rang comme moi lui voler le monopole de l'anticonformisme et de la bravoure. « Et vous alors, vous allez où là? Et le débat? Vous ne risquez pas d'arriver en retard pour le débat ?» Il était à bout d'arguments. L'unique avantage que l'on peut trouver à vieillir, pensais-je tout en fixant les sourcils de Mondoloni, afin de ne pas me laisser attendrir par la détresse qui se lisait dans ses yeux, c'est de s'autoriser enfin à ne plus avoir à plaire, fût-ce au puissant, ni à faire ce que l'on n'a pas envie de faire. « Ne vous inquiétez pas pour moi, dis-je, je serai là à temps, j'ai juste une petite course à faire avant. » Pourtant, une fois débarrassé de Mondoloni, je n'avais rien imaginé d'autre qu'effectuer un tour complet du gigantesque pâté de maison que nous étions en train de longer, afin de laisser prendre suffisamment d'avance sur le trajet. Et me dépêcher ensuite pour arriver à l'heure au débat prévu de la maison centrale des artistes. Devenir égoïste, cela ne va pas de soi. Un public en parka et chapka finissait de garnir les gradins de l'auditorium lorsque j'entrais. Je fus un peu déçu de constater que Mondoloni, sain et sauf, était déjà sur place. Je l'aurais préféré perdu, ayant abandonné la partie et de retour à l'hôtel. Il échangeait avec quelques journalistes et photographes montés sur scène pour une interview improvisée. Galvanisé par leur sollicitude, il avait retrouvé toute l'assurance qui seyait à son statut. Sans la moindre rancune, il m'adressa même de derrière les micros un petit signe complice de la main en m'apercevant. À ce geste, les journalistes s'interrompirent pour se tourner ensemble vers moi. Mais mon visage ne leur évoquant rien du tout ou pas grand-chose, ils revinrent aussi secs à Mondoloni. Une jeune femme, portant un badge, s'avança vers moi. Après avoir vérifié sur sa liste que je faisais bien partie du panel des intervenants, elle m'indiqua dans un français très fluide le siège qui m'était réservé entre un linguiste hongrois et une économiste estonienne. Mondoloni, lui, avait été prévu au centre, à côté du modérateur. Le linguiste et l'économiste m'accueillirent d'un même sourire entendu, signifiant que, Mondoloni étant l'objet de l'attention générale, la partie n'était pas gagnée pour les autres. Puis l'hôtesse d'accueil se pencha et me demanda à voix basse si je ne voyais pas d'inconvénient à ce que le professeur commençât seul. Il devait prématurément quitter la rencontre pour se rendre à l'aéroport et attraper son vol pour Istanbul où il était attendu le soir même pour une communication importante à l'université. Quitter la rencontre, Istanbul, communication importante, université. Je repensais au bref quart d'heure que nous avions passé ensemble sur les boulevards avec Mondoloni. À mes gesticulations face au grand homme, à l'enjeu mineur que je représentais alors en regard des engagements qui lui restaient à honorer au cours de cette seule journée, sans qu'il ait songé à en évoquer un seul devant moi. J'imaginais la navette à sa disposition à la sortie de l'auditorium, les bagages au garde-à-vous dans le lobby de l'hôtel, le coupe-fil à Sheremetyevo, la première classe pour Istanbul et l'accueil en limousine VIP à l'aéroport là-bas. La mise en œuvre d'un emploi du temps millimétré, assuré par une escouade silencieuse et invisible de petites mains partout où il séjournait. La vraie supériorité, c'est cela. Laissez aux autres le soin de découvrir tout seul combien votre vie est trépidante et bien huilée. L'auto-événement permanent. Un technicien va remettre à chaque participant un casque sans fil muni d'un récepteur pour la traduction simultanée. Je l'appliquais sur mes oreilles et, depuis les cabines d'interprétation alignées non loin de là, une voix féminine comparable à celle de l'hôtesse d'accueil se présenta en français en me souhaitant la bienvenue. Lorsque la parole était donnée à Mondoloni, on n'était jamais déçu. Il rendait les choses simples parce qu'on avait une vision précise, synthétique et documentée. C'était clair, bourré d'informations, pédagogique et parfois drôle. Presque addictif tant il possédait ce talent de donner à son auditoire le sentiment que ses connaissances et ses références étaient aussi les vôtres. Les interminables ondes de choc de la crise des subprimes de 2007, la position de la Grèce, de l'Allemagne et de la Chine, les printemps arabes avortés, l'Irak et l'Afghanistan, les écoutes de la NSA, Fukushima, l'Obamacare, Poutine, les quotas de Bruxelles, la montée des nationalismes en Europe, la nécessité vitale d'une grande réforme des institutions en France avant la chute. Tout le monde en avait entendu parler. Mais Mondoloni avait le pouvoir de vous faire découvrir que vous en saviez bien davantage que vous ne le pensiez. Et mieux encore, que vous étiez désormais tout à fait capable de vous faire tout seul une opinion définitive sur tout cela sans imaginer une seconde qu'il s'agissait de la sienne. Au bout de 40 minutes d'entretien avec le modérateur, Mondoloni se leva. Il boutonna sa veste, serra la main du modérateur et nous adressa, à moi ainsi qu'à mes deux voisins, un bref salut d'adieu plein de fausse modestie. Un peu comme s'il désertait une soirée dansante après avoir coupé le disjoncteur et lancé aux convives présents quelque chose comme « Amusez-vous bien et surtout, faites comme si j'étais pas là ». C'est sous une pluie battante d'applaudissements qu'il quitta la salle. Car il en va des vedettes de la pensée comme des rockstars. Avec la consécration, ils finissent par se tenir hors de portée des manants et par ne plus avoir pour contre à rendre à leur public qu'une prestation minutée et sans accroc, facturée les yeux de la tête aux organisateurs. Rien de plus. Ainsi, une fois son contrat rempli, Mondoloni était-il parti sans laisser à l'assistante ni aux autres intervenants la possibilité de réagir à ses propos en sa présence? Et l'assistance, en vertu des lois psychologiques complexes, unissant victimes et bourreaux, ne s'en montrait que plus reconnaissante à son égard. La preuve, considérant le siège désormais vide de Mondoloni au milieu de la scène, un peu comme une incisive centrale supérieure qui manquerait dans un sourire, les deux tiers des spectateurs se levèrent à leur tour en enfilant manteaux et bonnets. Ils se dirigèrent ensuite vers les portes de sortie en file plus ou moins bavarde et désordonnée, contraignant le modérateur à s'interrompre dans sa présentation de l'économiste estonienne. Le début n'est absolument pas représentatif de la suite du livre. Il met en place quelque chose, il met en place un regard. Il met en place la capacité qu'a ce personnage de regarder autour de lui avant de se regarder lui-même. Alors il commence par « les gens ne s'écoutent pas ». Pas « les gens ne s'écoutent pas ». Eux-mêmes, c'est pas un individu qui ne s'écoute pas lui-même, c'est les gens entre eux ne s'écoutent pas, on se parle sans s'écouter. Le livre commence là-dessus, pour moi c'était important de poser d'emblée le non pas l'objet de ma démonstration, puisqu'il ne s'agit pas d'une démonstration, mais de ce qui a motivé l'écriture de ce livre. Les gens ne s'écoutent pas. Je voulais aller au bout de la sincérité de ce personnage, à la fois vis-à-vis des autres et vis-à-vis de lui-même. C'est quelqu'un qui se dit revenu de tout et finalement, il se demande s'il a un cœur, il se pose vraiment cette question. Et je pense qu'il en a un, puisqu'il s'émeut quand même des choses. Au début du livre, rien ne permet de dire que ce type est insupportable. J'ai l'impression de me laisser porter un petit peu au fil de la plume, et les choses se dessinent, quitte à les recadrer ensuite, mais je n'ai pas suffisamment de talent pour construire des personnages extrêmement maîtrisés, extrêmement contrôlés. Les miens se ressemblent un petit peu tous à chaque fois, mes narrateurs à la première personne. La seule chose qui évolue de livre en livre, c'est que j'ai l'impression d'économiser de plus en plus, d'arriver à être plus efficace sur la façon de les décrire, sur la façon de décrire leur regard sur le monde. Mais au fond, c'est un peu toujours les mêmes personnages qui sont finalement des gens qui ont peur des autres, qui sont probablement égarés devant un monde trop grand pour eux et qu'ils croient contenir dans le creux de leurs mains ou de leur regard. Je ne sais pas forcément où je vais, je ne sais pas forcément dans quelle direction je vais mener mon personnage. Je n'ai rien à démontrer. J'ai des choses à dire par le biais de quelqu'un qui va se dessiner progressivement. Et c'est à la fin du livre que je me dis, mon Dieu, bah, il est comme ça, comme ça, comme ça. Et encore, c'est vous qui me le dites aussi. Hein. Vous savez, c'est le livre ne vous appartient plus. Ça, c'est vrai. Il n'y a rien de plus vrai. Quand c'est un lecteur qui vous en parle, bah, il faut écouter parce que vous allez découvrir des choses que vous n'avez pas forcément voulu mettre. Et à partir du moment où vous en avez un écho par une personne extérieure, bah, il faut considérer que c'est vrai. Donc non, je n'ai pas cherché à en faire quelqu'un de médiocre ou qui cherche même à se... C'est une phase, vous savez, c'est un rythme que vous avez en vous, c'est une esthétique, c'est une façon de procéder et il n'y a rien à faire, ça sort comme ça. Alors voilà, il s'agit d'une chanson intitulée Fallait pas, d'une jeune chanteuse camerounaise qui s'appelle Coco Argenté. C'est une chanson qui est sortie en 2013 et qui a. Si vous allez aujourd'hui à Yaoundé, à Douala, dans toutes les villes du Cameroun, vous entendrez ça dans les taxis, vous entendrez ça dans ce qu'on appelle les call box, vous savez, les endroits où vous allez chercher votre crédit pour le téléphone portable, vous allez entendre ça dans les épiceries, vous allez entendre ça partout. Voilà, c'était un tube de l'année 2014. Alors pourquoi j'ai choisi cette chanson? C'est ça la question, j'imagine. Il se trouve dans ce livre, Au Pays du Petit, le Pays du Petit dont il est fait référence à la couverture, c'est la France. Donc ça parle de la France, c'est un livre qui dit beaucoup de mal, de façon d'ailleurs très caricaturée, un peu exagérée, mais ça fait partie aussi des choses qui m'intéressent, de caricaturer ce que j'ai à dire, qui parle de la France. Mais ça parle également des hommes et des femmes, de tout ce qui fait nos différences et qui nous rapproche les uns les autres. Et cette chanson m'intéresse beaucoup parce que la chanteuse dit... Elle décrit en fait un type qui au début est adorable avec elle, fait tout pour la séduire, et au bout d'un moment, visiblement, le gars s'est lassé et il part voir ailleurs. Et puis elle dit, mais pourquoi tu as fait tout ça? Et elle dit, il fallait faire un peu. Il fallait faire un peu. Et c'est tout le problème du personnage à l'intérieur de ce livre. Il ne fait pas un peu. Il donne tout pour ensuite tout reprendre. Donc c'est quelqu'un qui... c'est l'histoire en fait d'un homme qui va payer le fait d'avoir trop joué avec une femme à l'intérieur de ce livre. Il va le payer... relativement cher, mais de façon assez banale. Mais enfin voilà, cette chanson me paraissait tout à fait résumée en un seul mot, fallait pas. Fallait faire un peu. Elle a dit d'abord fallait pas et ensuite fallait faire un peu. Tout ce que ce personnage ne fait pas finalement.
Merci Nicolas.
Je vous en prie.
Fallait faire un peu, il fallait seulement faire un peu. Fallait faire un peu, il fallait faire un peu. Fallait faire un peu, il fallait seulement faire un peu. Parce que bébé, la 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 la.
C'était Nicolas Fargue, qui présentait son roman Au pays du petit, qui paraît aux éditions POL. Les bonnes feuilles. Sandrine Trainer, Anne-Vanessa Prévost, Somanina, Jean-Louis Deloncle.